Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, désolé pour les petites 10 minutes de retard, le temps de s'asseoir, de laisser sortir aussi les autres. Alors bienvenue pour parler de l'extinction de l'homme, ou plutôt de la non-apparition de l'homme. C'est une expérience de pensée, donc de 11 à 12, où on va tous ensemble essayer de réfléchir à notre belle planète sans notre espèce, sans même le genre homo, qui est le genre humain, puisque par définition, en fait, qui dit absence d'homme, dit absence d'humanité, donc plus de sapiens sur Terre, plus d'Erectus, plus de Néandertaliens, etc. Donc aucune espèce humaine possible. Quand on se tourne vers le passé, hein, je suis paléontologue au fait, au CNRS et affecté au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Alors l'évolution de l'homme n'est pas ma spécialité, hein, même si je viens de publier participer plutôt à un collectif qui s'appelle Variations autour de l'histoire de l'humanité aux éditions La Ville Brûle, qui est une petite maison d'édition à Montreuil, où Roland Lehoucq notamment a participé, Laurent Jeunefort aussi que vous connaissez, on a choisi des textes et puis on les a commentés au regard de soit de la science-fiction, soit de la paléontologie générale, soit de la paléoanthropologie. On a une préface de Coppens. Donc on va quand même parler, je vais quand même me jeter dans le vide ce matin, puisque je vais vous parler d'une spécialité dont je ne suis pas expert, mais c'est pas grave, ça reste de la paléontologie au sens large et surtout de la biologie spéculative ou même de la planétologie spéculative, puisque l'homme a un impact considérable en fait sur la planète, on va le voir. Alors, pour cette expérience de pensée, le micro va circuler, bien sûr, n'hésitez pas à interagir, à intervenir. Ce que je vous propose, c'est que pendant la première demi-heure, je vous présente en fait un petit peu les données factuelles pour concevoir ce monde imaginaire, bien sûr, sans homme. Et puis ensuite, pendant la deuxième demi-heure, on interagit tous ensemble pour essayer de construire en fait cette utopie, ou plutôt cette uchronie évolutive d'un monde en fait sans humain. Alors, le monde sans humain a déjà été plusieurs fois expérimenté dans le cadre d'exercices justement de pensée. On pense à ce documentaire fiction que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Aftermath, qui est de Christopher Rowley, d'ailleurs, c'est un auteur de SF et de fantasy, qui nous montre que, il imagine comment la Terre va évoluer sans homme. Alors, l'homme est apparu, ok. Donc, le temps zéro, c'est maintenant. Il raye de la carte tous les humains. Alors, peu importe le moyen d'élimination des humains, il y en a un milliard. L'histoire, malheureusement, nous le montre bien. Et il fait un petit peu comme Thanos, en fait, dans le dernier Avenger, sauf que lui, c'est 100% en fait des espèces humaines ou humanoïdes qui disparaissent. C'est pas 50%, contrairement à Thanos. Et puis, il explique que, déjà, au niveau énergétique, la Terre va subir une sorte d'extinction lumineuse petit à petit, en fonction de l'épuisement des ressources minières, en fonction de l'extinction mécanique, entre guillemets, des centrales électriques. Et puis, ensuite, les moteurs diesel rechange des centrales nucléaires vont se mettre en route par mesure de sécurité. Les automates de sécurité vont s'activer au bout de... Alors, il y a un timing, en fait, hein, dans le documentaire qui est assez réaliste, finalement. Et au bout de quelques 48 heures environ, les systèmes de sécurité automatisés se mettent en place en l'absence d'intervention humaine, puisqu'il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'humains sur Terre. Donc, en fait, on voit rapidement une extinction, une catastrophe nucléaire, puisque les moteurs diesel, qui sont censés maintenir la température idéale pour ne pas que les centrales nucléaires explosent, en fait, tombent en panne, tout simplement par épuisement des carburants. Et donc, il y a une sorte de catastrophe nucléaire, d'abord locale et puis ensuite généralisée, puisque les gaz mortels se répartissent assez rapidement dans les couches supérieures de l'atmosphère, notamment dans la stratosphère, où là, il y a beaucoup de mouvements aussi horizontaux. Donc ça se c'est assez rapide en fait. Alors il montre aussi dans son documentaire des paysages urbains qui sont petit à petit finalement aussi recolonisés par la faune et la flore sauvage à certains rythmes, à certains degrés, et tout dépend aussi des milieux urbains en question et de la densité de population qu'ils hébergeaient. Hein, pour rappel, on est 7 milliards, enfin près de 7 milliards humains aujourd'hui sur Terre, 7 milliards, près de la moitié dans les villes ou au niveau des côtes, et on est présent partout, sur tous les continents, même en Antarctique. Ça, c'est une photo de l'Antarctique, il n'y a plus beaucoup de glace. C'est la base de McMurdo, la base américaine où l'été, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de neige et de glace, en fait, c'est une photo qui est prise l'été en Antarctique. Il y a quand même 2000 personnes. Donc il y a au moins plusieurs centaines de personnes en permanence en fait en Antarctique. Hein. Donc l'humain, c'est une espèce biologiquement très abondante en termes de nombre d'individus, en termes de biomasse. Elle est présente sur toutes les latitudes continentales, sur tous les continents. Elle a des actions plus ou moins irréversibles également dans tous les environnements, y compris sous terre. Hein, on modifie en fait le sous-sol terrestre par extraction de mines ou en creusant des galeries. On est aussi entre guillemets dans l'espace puisqu'on a laissé depuis 1969 des traces qui vont rester bien après nous puisque sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de phénomène d'érosion. Donc en fait nos traces vont rester sans doute après l'homme sur la Lune. En fait, l'impact de l'homme est tel qu'on parle d'espèce ingénieur, on modifie l'atmosphère, on modifie notre climat par notre activité. Je ne veux pas vous s'appeler moral hein, dès le matin, mais on a un impact tellement fort que c'est la première fois dans l'évolution de la vie sur Terre qu'une espèce aussi abondante a un impact aussi rapide. Alors, ça a déjà existé quand même un petit peu, et ça existe aujourd'hui. On parle donc d'espèces ingénieurs. Au niveau de la faune sauvage, les sangliers sont capables de vous labourer un champ en quelques minutes. Un troupeau entier de sangliers modifie substantiellement en fait son environnement local ou son environnement général. C'est la définition même de l'espèce ingénieur. Alors, est-ce que vous connaissez d'autres espèces naturelles, cette fois-ci, comme le sanglier ingénieur ? Les castors. Ouais. Les castors sont capables de modifier substantiellement, en creusant et en fabriquant des barrages, en fait, les réseaux hydrographiques, voire même de modifier certains lits de rivières ou de torrents, certains cours d'eau, et de modifier donc les paysages. Et puis, il y a environ 2 milliards d'années sur Terre, il y avait des bactéries au début anaérobiques qui deviennent en fait photosynthétiques, c'est-à-dire qui vont puiser le CO2 dans l'atmosphère terrestre de l'époque et recracher en fait de l'O2. Et elles étaient tellement nombreuses qu'elles ont modifié en fait substantiellement la composition atmosphérique en taux d'oxygène. Et ça, ça se voit à l'échelle de la géologie, en fait, du registre fossile. Ce sont des espèces de bandes de roches très anciennes. Hein. On est à peu près à 1,8 milliard d'années. Ce sont des roches qui sont rubanées et qui présentent des grosses traces de sédiments très durs et très rouges. Hein. C'est du fer ferrique. Et justement, en anglais, ça s'appelle la BIF, Banded Iron Formation. C'est la formation, en fait, rubanée à base de fer, parce que le fer a été oxydé. Le fer contenu dans l'environnement s'est transformé en rouille quasiment du jour au lendemain, enfin je schématise à peine, suite à cette grande oxygénation en fait de l'atmosphère. Ça, c'était il y a moins de 2 milliards d'années. Alors, l'humain en termes d'évolution des espèces, c'est le genre homo. Donc si on veut imaginer une Terre sans hommes, il faut remonter à l'apparition du genre humain. Alors l'apparition de l'espèce humaine d'Homo sapiens, le plus vieux jamais découvert, il a été publié récemment, il vient du Maroc, c'est ce crâne-là qui a 300 000 ans quand même. moins 300 000 ans pour le plus vieux sapiens connu. Mais il n'y avait pas que sapiens à l'époque. En fait, on connaît, en termes de paléoanthropologie, aujourd'hui, une petite dizaine d'espèces d'humains, hein, appartenant au genre Homo. Donc une dizaine d'humanités différentes a voyagé, s'est reproduit, s'est hybridé, métissé sur Terre, bien avant Sapiens. On a par exemple là-haut Denisova, en haut à gauche. En haut à gauche, on a Denisova, on a Néandertalensis, l'homme de Néandertal, et on vient de découvrir, grâce à la paléogénétique, une forme totalement hybride entre Denisova, entre les Denisoviens et les Néandertals. 50-50. Donc on n'était pas les seuls, en fait, hein, le sapiens n'est pas le seul humain à s'être baladé sur Terre au cours des temps jusqu'à combien exactement? Ben, regardez la base de l'arbre d'évolution du genre humain, c'est à peu près moins 3 millions. Alors là, on a dépassé les 300 000, bien sûr, hein, puisque on prend en compte toutes les autres espèces du genre humain, et la racine, si vous voulez, de cet arbre-là, c'est pas vraiment un arbre parce que les relations de parenté sont encore très discutées. Et puis, c'est ce que je dis, en fait, aux étudiants, comme quand je donne des fois des cours en paléanthropologie, je dis attention, il est difficile d'être objectif quand on travaille sur notre propre branche évolutive. Et j'enfonce même le clou en disant qu'il y a beaucoup plus de spécialistes en paléanthropologie que de spécimens. Donc, et c'est en partie, ceci explique en partie pourquoi l'arbre généalogique, entre guillemets, ou plutôt phylogénétique des humains et puis des autres primates non humains, hein, parce que il n'y avait pas non plus le genre Homo sur Terre uniquement. Il y avait des pithèques, il y avait des australopithèques, des ardipithèques avant nous, etc. Et il est difficile, en fait, de dessiner l'arbre évolutif des humains. Donc plutôt que de vous présenter toutes les hypothèses qui sont publiées actuellement, j'ai préféré rester un petit peu dans un flou artistique, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est la base, en fait, du clade, de la ramification, c'est-à-dire moins 3 millions d'années. Alors moins 3 millions d'années, c'est quand même pas mal à notre échelle. À l'échelle de la planète Terre, il y a un phénomène qu'on appelle la tectonique, qui va nous indiquer qu'à l'époque, le visage de la Terre était quand même assez différent de notre carte actuelle. Pourquoi ? Parce que, en fait, les plaques tectoniques, dont vous avez ici, en fait, les bords qui sont représentés en jaune. En fait, en jaune, sur cette carte-là, c'est les séismes. Donc, c'est les débâcles énergétiques qui sont situés entre les plaques tectoniques. Donc vous pouvez voir, par exemple, ici, la plaque africaine qui contient l'Afrique, plus une partie de l'Atlantique Sud, plus une partie de l'océan Indien, etc. Une plaque tectonique n'est pas seulement un continent. C'est un continent, ok, mais une partie aussi tout autour des océans qui l'entourent. La plaque sud-américaine est bien emboîtée, était encore plus emboîtée il y a à peu près 250 millions d'années avec l'Afrique, par exemple. Et tout ça, ça bouge. Ça bouge, alors on le sait depuis Wegener, hein, qui était un météorologue, en fait, au siècle dernier, qui avait dit que les continents bougeaient un petit peu comme des icebergs qui flottent sur l'océan. Bon, son modèle n'était pas tout à fait exact. Aujourd'hui, on ne parle pas de dérive des continents, mais de tectonique des plaques. Mais grosso modo, il avait raison. Et on a, grâce aux satellites aujourd'hui, des mesures précises, en fait, des mouvements des plaques. C'est de l'ordre de 3 à 5 ou 6 cm par an. Alors, à notre échelle à nous, bon, 6 cm par an, ça va. Mais à l'échelle du millier ou du million d'années, ça commence à faire pas mal. Et quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de cette longue histoire du globe, vous allez avoir une sorte de dessin animé assez rapide avec un compteur en bas à droite qui va vous indiquer les millions d'années. Et on va faire un arrêt sur image à moins 3 millions d'années pour voir à quoi ressemblait la Terre avant l'apparition de l'homme. Donc ça va très vite. On voit bien qu'il y a 250 millions... Ça tourne en boucle. On voit bien qu'il y a 250 millions d'années environ la Terre était constituée d'une seule, enfin les continents étaient regroupés en un seul méga continent qu'on appelle la Pangée, merci. Et tout ça, ça bouge donc. Et quand on fait un arrêt sur image à moins 3 seulement, bon, ben on a ça. Alors c'est pas très différent du monde actuel, sauf que ça se voit pas très bien sur la carte. Il y a une séparation entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Ça devrait plaire à Trump, cette photo d'ailleurs. Donc il y a isolement, en fait, isolation plutôt entre les deux Amériques, et puis il y a des petites modifications quand même climatiques, on va y revenir. Mais finalement, en termes de géographie, pas en termes de climato, mais en termes de géographie, vous avez quand même quelque chose d'assez identique à notre Terre actuelle, et pour cause, 3 millions d'années, c'est cette zone en fait qui est qui correspond au dernier tour de la spirale de l'évolution en fait de la vie sur Terre, qu'on appelle le Pliocène. C'est une zone, en fait, c'est un étage stratigraphique en jargon scientifique. On est ici, Pliocène, donc on n'est pas très loin de là, hein, par rapport à la longue histoire de l'évolution de la vie sur Terre. Cette spirale correspond en fait à l'évolution du système Terre et du système vie, avec en son centre 4,5 GA, c'est 4,5 milliards d'années, ça correspond en fait à l'âge de la roche la plus ancienne connue sur Terre. Donc l'âge de formation de la planète Terre a priori. Donc 3 millions d'années, c'est pas grand-chose. Mais au niveau climatique, bon, bah, il n'y a pas eu de glaciation, déjà. Entre 0 aujourd'hui et moins 3, il y a eu plusieurs cycles glaciaires, hein, on parle de cycles glaciaires interglaciaires, et il y a moins 3 millions d'années, le climat était un peu plus chaud, température globale de 3 degrés de plus, donc le niveau des mers était un peu plus haut, hein, s'il fait un peu plus chaud, vous avez moins de banquise, donc un peu plus d'eau liquide qui va par isostasie remonter un petit peu au niveau des terres émergées, et puis vous avez quand même une carte paléotopographique un peu différente. Et puis, en termes de glaciation, bon, c'est quand même plus réduit que les glaciers actuels, même s'ils ont tendance malheureusement à fondre à cause de nous. On a quand même en fait une glaciation avec des glaciers limités au niveau antarctique, bien sûr, et un petit peu au niveau Groenland. Sinon, en gros, c'est les Bahamas, quoi. C'est tranquille. Vous avez des grandes plaines, hein, des grandes savanes en jaune, des forêts tempérées en vert, un petit peu de partout. Vous avez un climat peut-être un peu plus propice, mais un peu plus contrasté aussi en termes de saison. Ça, on le sait, tout ça, on le sait grâce aux isotopes qui sont contenus naturellement dans les roches et qui vont en fait nous indiquer les paléo-températures ou les paléo-modes de vie des animaux fossiles qu'on trouve dans les couches sédimentaires en question. Alors, les animaux fossiles, il faut bien partir en fait de quelque part pour imaginer une Terre sans homme aujourd'hui. On en connaît pas mal. Hein. Au Pliocène, les faunes aussi bien terrestres que marines étaient déjà bien évoluées, bien dispersées, bien diversifiées un peu partout sur la planète. Et je vais vous montrer là des reconstitutions de paléopaysages qui sont faites à partir en fait des données fossiles d'une part. Donc la forme, la morphologie des ossements, la forme des plantes fossiles, la forme aussi et l'analyse des sédiments complètent cette espèce de reconstitution de paysage en fonction des grands gisements paléontologiques de cette époque-là. Donc vous avez par exemple des grandes plaines, entre guillemets africaines finalement, pas très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui dans certaines grandes réserves africaines, avec des carnivores, des herbivores, des milieux en fait très ouverts, hein, parfois, et qui se referment un petit peu par augmentation de densité d'arbres, et puis des milieux un peu plus contrastés, avec des formes de vie aussi un peu plus bizarroïdes, entre guillemets. Hein. Vous avez ici une sorte d'ongulé, avec une corne nasale bifurquée, et puis qui est en train de se faire latter par un gros carnivore qui n'existe plus, qui était un des plus gros carnivores terrestres, d'ailleurs. Une sorte de chien ours avec une mâchoire monstrueuse. Le crâne fait à peu près entre 50 cm et 1 mètre de long en fonction de l'âge individuel de la bête. Donc il faisait pas très bon quand même se balader dans certains coins de la planète, quoi. Que vous soyez pithèque ou déjà homo, fallait faire gaffe, quoi. Et puis si vous aviez envie de partir justement aux Bahamas et puis de vous baigner un petit peu, il y avait le mégalodon. Vous avez peut-être vu le film. Bon, c'est une fiction. Ils ont d'ailleurs augmenté encore plus la taille géante déjà du mégalodon, c'est-à-dire du requin fossile connu réellement par des dents qui font à peu près 20, pour certaines, hein, bien sûr, 20 cm de haut. Hein, et quand vous faites des calculs de proportion avec différentes espèces de requins, que ce soit des requins blancs ou d'autres espèces de requin, vous avez un truc de, c'est plus les dents de la mer, c'est du 18 mètres, je crois, enfin une vingtaine de mètres. Donc il faisait pas très bon non plus partir sur la côte en vacances à cette époque-là. Pour vous donner une échelle de taille, en fait, c'est un cachalot que le mégalodon est en train de latter. Et puis il y avait d'autres requins, bien sûr, pour agrémenter un petit peu les séances de natation. Donc c'est quand même un environnement pas si peinard que ça. Et puis on peut partir aussi sur une base de pithèques. Hein, on a vu qu'il n'y avait pas que le genre homo qui existait déjà sur Terre ou qui commençait un petit peu à s'épanouir. Il y avait d'autres australopithèques, il y avait des ardipithèques qui vivaient un petit peu comme des primates non humains aujourd'hui, c'est-à-dire nos cousins les plus proches, les chimpanzés, avec une structure sociétale, avec pour certains déjà la construction d'outils, la manipulation en fait d'objets. On a trouvé des silex taillés de plusieurs millions d'années qui correspondraient à une sorte d'industrie entre guillemets pithèque. Et ça nous a mis une bonne claque dans la figure parce qu'on pensait que seul le genre homo, bien sûr, puisqu'on est les plus intelligents, était capable de fabriquer des outils. D'ailleurs, quand vous regardez les singes actuels, ils s'en sortent pas mal au niveau manipulation des outils. Ils sont capables de choper exactement la brindille qu'il faut pour aller chercher des termites dans la termitière. Ils sélectionnent leurs plantes en fonction des maladies ou des parasites qu'ils peuvent choper en fait dans leurs environnements. C'est ce qu'on appelle la pharmacopée de primates non humains. Il y a une collègue au muséum qui s'appelle Sabrina Krief, qui travaille justement là-dessus, sur les relations entre les primates non humains et leurs environnements, et comment ce savoir-faire pour soigner, pour s'auto en fait médiquer, est transmis entre primates. Donc ça peut être une base aussi intéressante pour parler de terres habitées aujourd'hui par des primates non humains, parce qu'ils étaient déjà assez légions à l'époque, il y a 3 millions d'années. Et puis, on continue un petit peu notre prospective, et puis après, je vous laisse la parole quand même, parce que je ne vais pas être le seul à travailler ce matin. Mais on continue notre découverte de la paléobiodiversité de l'époque, qui est assez intéressante, parce que vous aviez aussi des trucs dans des milieux plus ouverts cette fois-ci, assez géants. Ça, c'est un oiseau qui fait entre 2 et 3 mètres de haut, carnivore, qui courait aussi vite qu'une autruche. Donc il n'était pas non plus très conseillé à l'époque de se lancer dans des treks et d'aller parcourir en fait la montagne, en tout cas tout seul. Donc alors ok, il n'y avait pas de mammouth, il n'y avait pas encore de smiloton, mais il y avait quand même des trucs assez intéressants en termes aussi de cognition, parce que ce sont des espèces d'oiseaux qui présente en fait des endocrânes, des parties céphaliques assez développées. Et quand vous regardez en fait les oiseaux actuels, que ce soit les perroquets ou les corbeaux, vous êtes proche au niveau psychisme d'un gosse de 3 ans. Ils sont capables de résoudre des énigmes, de mettre des hexagones rouges dans des trous pour avoir des graines qui tombent, ou des triangles jaunes à chaque fois, dans des ordres différents en fonction des exercices que vous leur donnez. C'est pas du dressage, c'est de l'apprentissage. Et ça va assez vite chez eux. Donc on peut très bien imaginer une pseudo-société intelligente, finalement, de piaf, aujourd'hui, qui remplacerait, entre guillemets, l'homme, si on imagine éventuellement un truc qui nous remplace, en fait. C'est ce qu'on a fait avec un collègue qui s'appelle Marc Boulet, qui est un paléo-artiste, Alors c'est pas un artiste qui vient du paléolithique, hein, c'est un artiste en fait qui reconstitue les espèces fossiles. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit tiens, j'ai envie de développer un propre mon bestiaire à moi, propre, fictif, spéculatif, sur Terre dans 10 millions d'années. Est-ce que tu me suis ? Donc j'ai sorti mon agenda, puis j'ai regardé, je lui ai dit écoute, je suis libre dans 10 millions d'années, il n'y a pas de souci. Donc on a proposé ensemble en fait une sorte de d'exploration sur une Terre future, futuriste, totalement imaginaire. On est dans la hard science fiction cette fois-ci, hein, puisque on peut pas prédire l'évolution des espèces. L'évolution des espèces est trop complexe en fait pour être modélisée. Hein, il y a trop d'espèces sur Terre, trop d'individus, il y a beaucoup trop de paramètres à rentrer dans une machine, si vous voulez, en ce qui concerne le climat, l'évolution de la disponibilité en nourriture, la loterie génétique aussi, énorme, les interactions entre espèces, il vous faudrait un ordinateur quantique pour finalement modéliser ce qui va se passer dans 10 millions d'années. Mais on s'est amusé à le faire avec ce qu'on connaît un petit peu du passé et puis ce qu'on a observé du présent. Et on s'est dit, les oiseaux, en plus c'est assez jubilatoire pour un paléontologue parce que les oiseaux, vous le savez aussi, ce sont des dinosaures à plumes. Imaginer des dinosaures du futur, c'était pas mal. Donc on a pris le perroquet, notamment le gris du Gabon, je ne sais pas si certains en ont peut-être chez vous, hein, c'est des perroquets gris vachement sympas, et on l'a déformé, morphisé en fait en 3D pour obtenir un truc affreux, mais intelligent, que j'ai appelé le Tyrannornis. Évidemment, l'oiseau terreur du futur, Tyrannornis rex, et puis il y a plusieurs espèces en fonction des écosystèmes du futur. Donc c'était ma page de pub pour vous parler de biologie spéculative. Et là, en fait, on est dans la spéculation, puisque on n'est pas dans le futur à plus de 10 millions d'années, on est dans le présent, mais en enlevant en fait une petite branche de l'évolution des espèces qui est celle de l'homme. Et puis, on n'est pas les seuls, bien sûr, à avoir imaginé des sortes d'uchronies évolutives comme ça. Il y a Doug Aldixon, qui est un collègue géologue écossais, qui, dès les années 80, a imaginé, je vous conseille le bouquin, en fait, en français, c'est « Les dinosaures d'aujourd'hui ». Il imagine les dinosaures, alors on met les oiseaux de côté, hein, on parle de dinosaures non aviens, on imagine les dinosaures non aviens, aujourd'hui, sans extinction à moins 66 millions d'années. Donc vous zappez en fait la météorite et ou les volcans qui ont participé à l'extinction d'ailleurs de 60% des espèces à l'époque, entre le Crétacé et le Paléocène, il y a 66 millions d'années. Il n'y a pas ces bouleversements climatiques et écologiques et les dinosaures continuent leur petit bonhomme de chemin évolutif. Il s'est amusé à allonger en fait certaines branches de l'évolution de certains groupes de dinosaures. Il a laté aussi quand même d'autres branches et puis il a inventé différentes espèces de dinosaures actuels qui sont assez croustillantes. Alors il n'a pas fait que ça aussi, il a travaillé sur d'autres espèces animales et végétales du futur, avec alors tout seul dans le cadre de différents livres. Et puis je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, The Future is Wild. C'était un documentaire qui est passé il y a une petite dizaine d'années à peine sur la BBC. Il a été un des consultants principaux pour cette production-là. Donc Doug Aldixon est un des pères, en fait, si vous voulez, de la biologie spéculative, de ces exercices de pensée qui consistent à imaginer comment la vie pourrait évoluer en enlevant un facteur ou en développant en fait certaines branches de l'arbre de la vie. Et puis, il y a un autre collègue paléontologue, Donald Russell, aux États-Unis, qui, en décrivant, alors là, on est dans les années 70, c'est une publication des début des années 80. Dans les années 70, il trouve dans des sédiments du Crétacé nord-américain un dinosaure avec une tronche particulière, une sorte de raptor, si vous voulez. En fait, c'est le genre Troodon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un cousin plus intelligent encore que le raptor, que malheureusement on voit pas ou pas encore dans Jurassic Park. Peut-être que Spielberg, il faut que j'en parle à Jack Horner, qui est le conseiller scientifique de Spielberg, en lui disant tiens, essaie de faire du raptor, du troodon un peu plus réaliste que les raptors qu'on vient de voir dans Jurassic World 2, parce que ça casse pas des briques. Mais bon, je ferme la parenthèse. Le collègue en question, Donald Russell, a été étonné par le volume encéphalique du troodon, de cette espèce de petit carnivore bipède proche des raptors. Il l'a modélisé comme il l'a pu à l'époque. Il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de micro-tomographe en 3D. Et il s'est dit, tiens, je vais m'amuser avec son collègue préparateur et taxidermiste à imaginer l'évolution future de ce dinosaure-là. Et il a proposé une sorte d'humanoïde reptilien avec une région encéphalique encore plus grosse. Alors, c'est très anthropocentrique, mais ça a le mérite d'exister et c'est les années 80. Donc on pourrait très bien imaginer d'autres formes de vie intelligentes se développer finalement sur Terre aujourd'hui sans l'apparition du genre Homo. Alors est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des réactions? On n'est pas obligé non plus d'inventer forcément des formes intelligentes parce que par anthropocentrisme, déjà ça nous gêne quelque part d'imaginer un monde sans nous. Donc, a fortiori, quand on parle d'espèces intelligentes, et c'est ce qu'on voit souvent, malheureusement, pour moi en tout cas, dans la science-fiction, mainstream en tout cas, c'est que dès que vous avez un extraterrestre intelligent, bah, comme par hasard, il est humanoïde. Alors bon, c'est sûr que ça coûte moins cher de mettre un slip rouge et une cape rouge à Superman, qui n'est pas un super-héros, je vous rappelle, c'est un extraterrestre, c'est un kryptonien, qui n'est pas réellement un super-héros. Donc bon, c'est un acteur. Effectivement, la science-fiction, c'est fait par des humains, pour des humains, et c'est censé délivrer des messages. Donc pour délivrer un message, il vaut mieux que vous ayez en face de vous un truc qui vous ressemble qu'un truc sphérique, noir, sans yeux, avec une mâchoire extensible, on citera personne, qui veut vous latter, quoi. Enfin là, l'intention, elle est claire, en tout cas chez Alien, quoi. Donc voilà, je vous laisse imaginer des aliens éventuellement humanoïdes du futur ou pas. Oui.
Juste avant de faire passer le micro, est-ce que vous pouvez juste vous tasser un petit peu pour que moi je puisse passer dans l'allée et vous le faire passer? Merci.
Oui, donc, alors imaginez peut-être pas encore, mais j'ai l'impression, en tant que néophyte, que par les dinosaures et par les humains, qui ont un peu prédominé à leur époque, il y a une dominance, la férocité chez les dinosaures, l'ingéniosité chez les humains. Donc, quelle que soit la créature qui vient après, il y aura peut-être un trait important qui fera que ce sera un élément de prédomination. Et puis ça s'emballe, j'ai l'impression aussi, chez les dinosaures qui viennent plus gros, plus féroces, puis qui disparaissent. Les humains qui deviennent plus ingénieux, puis qui sont bien partis pour disparaître aussi.
Ouais, ouais.
Donc peut-être que ce sera aussi une...
C'est une très bonne remarque. Effectivement, les prédateurs... Bah, ils doivent inventer des ruses et peut-être être un peu plus malins que les herbivores pour pouvoir justement attraper des herbivores. Alors ça s'explique effectivement l'origine des dinosaures, par exemple, à l'origine. Les premiers proto-dinosaures connus, c'était des sortes de varans, bipèdes, pas très grands, et carnivores. Carnivores ou insectivores, enfin carnivores généralistes. Ça bouffait un peu tout et n'importe quoi, mais surtout de la barbaque en fonction de la forme des dents et de la microstructure en fait de l'émail des dents. Donc souvent à la base en fait des grands groupes vivants, vous avez du petit malin carnivore qui va se développer et certaines branches vont se transformer en herbivores et puis vont servir de matière première en fait à d'autres branches, etc. par interaction. Alors en ce qui concerne l'homme, quel était le régime alimentaire en fait des premiers représentants du genre Homo? Je pense qu'il était plutôt omnivore, voire même végétarien. Et c'est surtout un peu plus tard par l'expérimentation du feu qu'on s'est dirigé vers une alimentation plus carnivore, bien que l'alimentation carnivore était déjà présente. On bouffait de la viande crue avant de la cuire, tout simplement. Mais on s'est rendu compte qu'en la cuisant, on la débarrassait de parasites, et donc on pouvait en manger plus. Donc on gaspillait peut-être moins quand on allait chasser du mammouth ou autre, grâce au barbecue quoi, de l'époque.
Bonjour.
Bonjour.
Quand on imagine une planète Terre sans espèce humaine, la première chose moi, à laquelle je pense, c'est l'influence que l'espèce humaine a eue avant, bien avant le climat, a eue sur l'évolution et la sélection des espèces animales et végétales par l'agriculture et par l'élevage. On a sélectionné des vaches de génération en génération avec la sélection artificielle qui a inspiré plus tard Darwin, la sélection artificielle des espèces que nous avons domestiqués et des espèces. On a sélectionné aussi des cultivars d'espèces végétales pour choisir celles qui étaient les plus intéressantes, les plus rentables. Et du coup, par cela, on a mis de côté certaines espèces végétales en envahissant l'ensemble du territoire. Et c'est la première chose à laquelle je pense dans ce genre de choses.
Oui, effectivement, si on imagine le monde aujourd'hui sans humains, il faut enlever ou rayer de la carte aussi toutes les espèces qui sont liées par domestication ou par même manipulation génétique, en fait. Et là, c'est une première dans l'évolution des espèces. C'est une première fois où une espèce interagit sur le vivant, la génétique du vivant d'autres espèces. Mais même en enlevant les manipulations génétiques, vous rayez de la carte tout ce qui est bétail, hein, 7 milliards, je crois, de têtes de bétail dans le monde, qui ont un impact aussi considérable, les animaux domestiques, les chiens, les chats. D'ailleurs, dans le reportage de Rowley, Aftermath, dont on a parlé en fait au début, il explique que les villes sont rapidement envahies par des hordes de clébards qui deviennent plus ou moins sauvages, et c'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui dans certains chantiers, enfin dans certaines friches. Des anciennes friches industrielles ou même dans des campagnes un peu profondes où l'humain en fait s'entourait de chiens dans des anciens sites pastoraux, par exemple dans l'Atlas ou ailleurs. Quand je vais faire des fouilles paléontologiques dans le Haut Atlas, il fait pas trop bon se balader la nuit, même dans les villages, même dans les bleds, parce que on entend la nuit des hordes de chiens et c'est pas des petits caniches à mémé, quoi. On n'a pas trop envie de s'y frotter. C'était des anciens chiens en fait de berger qui viennent un peu zoner en ville et donc voilà, on peut déjà on les raye aussi de la carte quand on revient au temps à moins 3 millions ou au temps zéro sans humains. Les chats aussi, bien sûr. Le chien étant, je finis la parenthèse du chien, le premier, enfin un des premiers, en tout cas avant le chat, animal domestiqué. Donc oui, il y a beaucoup d'impact finalement sans nous. Il y a beaucoup d'espèces aussi qui disparaissent. Enfin, ou qui n'apparaissent pas, plutôt, dans ce sens-là.
Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une idée du réel impact humain sur l'arrêt de l'évolution des espèces actuelles? Le fait qu'ils aient évolué jusqu'à aujourd'hui, et puis depuis l'arrivée de l'humain, est-ce qu'il y a eu un effet quelconque de l'humain, ou est-ce qu'en fait ça continue, mais qu'on ne s'en rend pas compte, quoi?
En fait, les collègues biologistes, ou plutôt écologues, qui bossent sur ces thématiques-là, ils parlent quand même de sixième extinction. Alors, d'ailleurs, ça, c'est pas la sixième. Si on compte toutes les extinctions, mais là, je fais le chieur paléontologique, ça serait la septième, en fait, parce que on parle pas de l'extinction de toutes les bactéries anaérobiques qui ont été quasiment éteintes suite à la grande oxygénation, puisque l'oxygène, pour elles, devenait un poison, en fait. Mais bon, cette extinction-là, mise à part, ça compte pas, c'est de la bactérie. Faudrait pas que Marc-André soit là, parce que il est spécialiste, en fait, de ces organismes microscopiques. Mais oui, l'impact est quand même réel. Les collègues parlent de sixième extinction. Quand on regarde, en fait, les chutes des courbes en termes d'évolution rapide, récente, hein, ou subrécente de la biodiversité, ce sont des coefficients directeurs, donc des pentes en termes de mathématiques qui sont proches, voire plus importantes que les chutes de paléobiodiversité lors des grandes extinctions. Donc on voit souvent, régulièrement en tout cas dans les médias, des sortes d'alertes en disant, voilà, là, récemment, dans les pages du Monde, on nous alerte sur la disparition de, je crois, un tiers des espèces d'oiseaux. On nous a alerté sur la disparition des pollinisateurs, insectes ou autres. Il n'y a pas que les insectes qui pollinisent. S'il n'y a plus de pollinisateurs, il n'y a plus beaucoup de brassage génétique chez les plantes à fleurs. les plantes à fleurs ou les plantes en général, sans elles, on est très mal, voire même absent. Parce que ce sont elles qui participent vraiment à la réoxygénation en fait, des écosystèmes, que ce soit marin avec les algues ou terrestre avec les grandes forêts qu'on est en train de bousiller à loisir avec les ethnies humaines qui vivaient ou qui sont obligées de partir. En fait. Donc je ne veux pas vous couper l'appétit, mais oui, les collègues écologues, en tout cas, parlent d'urgence quand même. Hein, Puis bon, après, on peut parler aussi d'acidification, parce qu'il n'y a pas que les taux d'extinction des autres espèces. Il y a aussi les chutes en termes de, ou les augmentations d'acidité dans les océans, ou de variations bizarroïdes de salinité, ou du géomagnétisme. Enfin, je crois que je vous ai coupé l'appétit.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la zone de l'accident de Tchernobyl, qui aujourd'hui a été désertée quasi totalement par l'humanité, sauf quelques fous qui veulent y rentrer absolument, mais ça c'est autre chose, n'est pas un bon exemple de ce qui pourrait arriver en absence d'humanité dans un secteur, et parce qu'on se rend compte qu'il y a une hausse de biodiversité extraordinaire dans cette région, malgré la toxicité importante de la contamination par le césium radioactif.
Enfin, une touche positive. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a l'apparition quand même de ce qu'on appelle des hotspots de la biodiversité sur d'anciens sites où il n'y a plus d'humains, qui sont quand même bien crades, bien pollués encore, mais la vie s'adapte. La vie, bon, elle est sélectionnée aussi, retenue ou pas par la sélection naturelle, mais il y a une réappropriation des écosystèmes entre guillemets sauvages ou non anthropiques parce qu'il n'y a plus d'hommes, en fait. Et finalement, l'homme est peut-être encore moins fréquentable que le césium. Quoi. Donc, il y a même des chevaux de Przewalski, je crois, qui recolonisent en fait les environnements autour de Tchernobyl. Donc, des espèces assez rares qui reviennent en fait se balader tranquillement parce qu'elles se font plus emmerder par les humains. Quoi. Donc, oui, il y a quand même un espoir sur cette belle planète. De toute façon, la planète n'a pas besoin d'humains pour exister ou pour fonctionner, entre guillemets. Hein. Je ne suis pas non plus un aficionados de la théorie Gaïa, mais la planète allait très bien en fait avant nous, et puis elle se portera bien aussi après nous, hein. Finalement, la sixième extinction. Alors par contre, elle ne regarde pas que nous, puisqu'on va interagir sur beaucoup d'autres espèces. Donc ce n'est pas seulement une responsabilité morale, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis des autres espèces qui vont directement en fait en subir les conséquences. Quoi.
Bonjour. Est-ce qu'on occupe une niche écologique susceptible, enfin en tant qu'humain, susceptible d'être récupérée par une autre espèce? Et dans quel cas est-ce qu'on a une idée de l'espèce qui pourrait récupérer notre niche?
Alors ça, c'est un beau sujet aussi de SF. Notre niche écologique, puisque près de la moitié des humains vivent dans des villes, elle est artificielle et urbanisée, et la SF s'approprie un petit peu de ces environnements urbains, et après surtout le genre post-apo, où on recolonise en fait les villes avec des organismes un peu bizarres. Alors on pense à des hommes rats par exemple, enfin des rats qui deviennent un petit peu humains. Ou d'autres espèces un petit peu bizarroïdes. Sinon, dans les autres écosystèmes, tout dépendrait en fait des autres espèces prédominantes dans les autres écosystèmes. Mais je verrais plutôt si on a besoin de remplacer l'homme à tout prix, ce qui est encore une fois pas obligatoire en termes d'uchronie spéculative, hein, évolutive. On pourrait imaginer. Alors, les rongeurs, effectivement, sont souvent utilisés par les créatures designers, parce que les rongeurs, c'est le deuxième, voire le premier groupe de mammifères le plus diversifié en termes de nombre de groupes et en termes de nombre d'individus. Le taux de reproduction des souris ou des rats est assez énorme, donc c'est exponentiel. Dans les villes, il y a autant de rats que d'hommes. Hein. On les voit pas forcément, mais ce sont des organismes qui s'adaptent bien en fait et qui colonisent très bien en fait les milieux urbains. Donc il y a aussi les oiseaux quand même qui reviennent aussi de temps en temps. Chez les mammifères, il y a les chauves-souris. Il y a des trucs un peu gore, un peu bizarre, en SF horrifique, un peu vampirique aussi. Hier, on parlait de vampires avec Antoine, justement, et d'autres collègues. On a des sortes de chauves-souris plus ou moins hématophages qui deviennent terrestres. Ça se voit dans Primeval, je crois. On a une sorte de chauve-souris géante terrestre. Qui est pas mal faite d'ailleurs en termes d'anatomie. On pourrait remplacer finalement l'humain par d'autres espèces qui se développent bien, que ce soit des oiseaux ou des mammifères en restant chez les vertébrés, ou même des invertébrés. Hein, on parle souvent des scorpions, de la résistance en fait des arthropodes aux radiations justement nucléaires, enfin aux radiations tout court d'ailleurs. Grâce à la chitine, cette espèce de protéine super blindée en fait, qui constitue leur exosquelette. Donc il y a plein de formes de vie possibles, même chez les bactéries. Vous avez une bactérie qui est capable de résister à un taux de radioactivité genre 10 000 fois plus que le nôtre. Pourquoi ? Parce que son ADN, dans son ADN, il y a des sortes de mécanismes en fait de cicatrisation instantanée de l'ADN qui se fait démonter par les radiations. Donc peut-être que ça doit exister des scénarios déjà de science-fiction où on prend le génome de cette bactérie là et on se l'injecte et puis on continue à polluer tranquillement en rond quoi. Il faut arrêter, on m'a dit. Bon, il reste effectivement très très peu de temps.
On va devoir
Merci à tous.